Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI comme chaque fin d'après-midi. Et aujourd'hui, eh bien, nous évoquerons les Bleus et cette deuxième victoire pour un groupe qui prépare plutôt sérieusement sa Coupe du Monde. Ils ont battu une équipe de jeunes Italiens, certes, mais ont surtout montré à Didier Deschamps que ses choix seront difficiles à l'orage du tournoi. Le trio Mbappé, Griezmann, Dembélé et les deux jeunes latéraux Hernandez et Pavard ont montré leur talent. Une bonne nouvelle, sans doute, pour l'équipe de France. Le Brésil vainqueur de la Croatie et Neymar réapparaît en grande forme. L'Angleterre vainqueur du Nigeria, sans briller. La Free Lion, éternelle outsider ou bien favorite pour la Russie, nous répondrons ou tenterons de répondre à cette question. L'Égypte sans Mohamed Salah, convaincante face à la Colombie. Mais que valent les pharaons d'Hector Cooper sans leur phénix, sans l'attaquant vedette de Liverpool? Eh bien, nous en parlerons notamment avec vous, Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On connaît votre intérêt, votre attachement à ce joueur Mohamed Salah.
Et à son équipe.
Si particulier, évidemment, à l'Égypte dans son ensemble. Carlos Bianchi est là, bonjour Carlos.
Bonjour à tous.
Vous nous parlerez de Neymar, à défaut de parler de Messi aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez rien contre?
Ouais. Hein?
Je sais. Valentina Clemente, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un bonjour très spécial aujourd'hui. Il faut que vous soyez bien à l'écoute, chers auditeurs, parce que c'est la dernière fois que vous entendez Valentina aujourd'hui dans notre studio. Enfin, elle reviendra quand elle aura le temps, mais ça sera moins régulier. Elle retourne vers son pays, vers le sud de l'Europe. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Radio Foot, c'est parti. Didier Deschamps, sûr de son choix, la liste définitive des 23 joueurs transmise aujourd'hui à la FIFA, hein, c'était la date limite, est la même que celle qu'il avait annoncée le 17 mai dernier. Ces joueurs, qui ont sa confiance, viennent de remporter leur deuxième match de préparation. Alors c'était aux dépens de l'Italie, Valentina, oui. N'est-ce pas? Après la victoire contre l'Irlande 2-0 la semaine dernière, eh bien là, les Bleus se sont imposés sur le score de 3-1.
Pavard, avec Tolisso. Centre de Pavard.
Oh, oui. Oh, la reprise est derrière. Derrière cette reprise, il y a Samuel Umtiti pour l'ouverture du score de la 8ème minute pour les Bleus.
Derrière, lui dit Griezmann, il continue Casillas.
Et pourquoi pas?
Il va chercher le pénalty.
Pénalty, oui. Oh, il a eu raison de croire en son rêve jusqu'au bout, Lucas Hernandez.
Griezmann face à Sirigu.
Et ça passe. Il est parfaitement frappé. Bien joué.
Oh oui.
Il a eu le sang-froid du serpent, Ousmane Dembélé. Il a pris la bonne décision. Il a eu beaucoup, beaucoup de sérénité au moment de déclencher cette frappe enroulée. Dembélé et 3-1 pour l'équipe de France.
Alors Valentina, vous l'aurez noté, il n'y a pas le but italien. Je suis désolée, hein, je crois que Guillaume il s'est dit.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important. De toute façon, nous, on est en phase de réadaptation.
De reconstruction.
Voilà, oui, hein. Exactement.
C'est pour ça, cette équipe, elle vous a paru prometteuse, intéressante, ou c'était une vraie
transition? C'est un chantier. C'est un véritable chantier.
Et Roberto Mancini ne fait que commencer,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, oui.
Parce qu'on avait très peu de cadres, en fait, dans cette équipe.
Oui, non, il a décidé de changer, justement, pour essayer les jeunes
contre la France.
D'une grande équipe comme la France, parce que quand même, en Italie, la France, elle est respectée, c'est une des équipes
et mutuellement,
qui pourrait,
vous le savez,
comment dire, envisager de gagner cette Coupe du Monde. Donc, il fallait tester les jeunes en face des cadres. Aussi, si la France, c'est quand même une équipe jeune à sa fois, mais nous, on est totalement
sans
en phase
expérience
de reconstruction. Il y a des jeunes, il y a trois qui débuté pour la première fois sous les maillots des Azzurri. Donc, il faut comprendre que c'est un test important, mais il faut l'encadrer bien dans ce contexte.
Oui. Dans ce contexte. Antoine, l'équipe qu'avait alignée Didier Deschamps vendredi soir, vous diriez que c'était l'équipe A prime, l'équipe B
On se rapproche de toute façon de l'équipe A. Ça, c'est de l'équipe type.
Vous n'allez pas me faire du Deschamps, j'espère. Hein, pas de langue de bois dans cette émission.
Ça serait un peu difficile. Je suis pas tellement habitué. Enfin, même si on commence à le connaître un petit peu. Petit à petit, on sent que Didier Deschamps affine ses préférence. La reconduction de Corentin Tolisso, d'ailleurs, est peut-être un signe par rapport à ça au milieu de terrain. Il avait joué contre l'Irlande, il avait été très bon. Il a joué contre l'Italie, il est à nouveau très bon. De là, éventuellement, jouer une place de titulaire, pourquoi pas, on pourra en parler. Il avait en tout cas fait 7 changements, Didier Deschamps. Donc une grosse revue d'effectifs. Il avait changé ses latéraux. Il avait décidé d'aligner un trident d'attaque qui a été intéressant et efficace.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce trio d'attaque, ce trident, trio, qui était Mbappé, Griezmann et Dembélé. Dembélé. Carlos Bianchi.
Ils sont forts. Ils sont très forts, tous les trois. Et Dembélé,
il manque peut-être de jouer savez, ensemble, de, oui. d'adaptation, non?
On peut le demander qu'il y ait un peu plus de cohésion. Mais ce sont des mecs qui peuvent faire la différence chacun de son côté. Alors, il faut les laisser jouer aussi. Mbappé, il peut faire la différence contre d'autres défenseurs. Dembélé, c'est pareil. Griezmann, c'est pareil. Alors, ce sont des joueurs qui sont... S'ils jouent collectivement, tant mieux. Mais ils peuvent faire la différence tous les trois. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de sélections aujourd'hui qui sont des attaquants du niveau qu'il a la France. Hein. Mm-hmm. Faut faire attention.
Griezmann a marqué et Dembélé a marqué. Seul Mbappé, hein, décidément, le but se refuse.
Il a failli marquer, ouais. Puisque sur le but d'Umtiti, c'est sa frappe que Sirigu arrête.
Ouais. Franck, comment vous est apparu ce trio d'attaquants?
Ça manque de complémentarité. La difficulté, en fait, en équipe de France, parce qu'il y a eu des grands changements dans l'histoire de cette sélection. Par le passé, on avait des joueurs offensifs qui se mettaient souvent au service du grand buteur, du grand attaquant. Aujourd'hui, vous avez 3 solistes. Et c'est ça aussi qui est compliqué.
Mais un peu feu d'artifice aussi, parce que...
Ouais, mais ça veut dire que comment ils jouent chacun leur partition, ils ont envie de faire briller le copain, mais comme c'est aussi des finisseurs, ils ont envie de marquer le but. Ils ont envie de marquer le but. Sauf que, comme le disait Carlos, ce sont des joueurs avec un talent exceptionnel, avec une marge importante, je crois. Et voilà, et ça nous permet d'envisager des choses très très positives, très intéressantes pour le tournoi final. Mais moi qui suis aussi un vieux de la vieille, je me projette dans l'histoire, dans le passé de l'équipe de France. Je suis désolé, mais avant on avait souvent des gars qui se mettaient au service du mec, du finisseur, du buteur. On en a eu, on va pas revenir sur cette histoire-là.
Mais vous voulez dire
mais
quoi
que Dembélé 98, il n'avait pas de buteur. Hein.
Non, c'est vrai.
98, c'est vrai. Il n'avait pas de buteur et la France était championne du monde.
On a commencé ça avant l'Espagne, Carlos.
Attention.
L'Espagne elle a fait après nous.
C'est pour ça
que sans buteur.
Oui, mais l'Espagne, parce qu'il a trouvé un système,
exact.
Un style, disons.
En 98, il n'y a pas de buteur, mais parce qu'il y a aussi, des solistes au milieu de terrain, des garçons qui sont capables de marquer ces buts-là. Puis ça pouvait venir de tous les côtés. On l'a vu en demi-finale, ça vient de Thuram, etc.
Si, Pires, Zidane, n'importe lequel.
Thierry Henry, ça venait de partout. Mais même avant, moi, je pensais à une époque encore plus ancienne de l'équipe de France, où il n'y avait pas forcément 3-4 joueurs de cette valeur-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, ils tirent un peu là.
Mais vous écoutez... Excusez-moi, Annie.
Oui, allez-y,
d'abord,
Carlos.
Les femmes.
Allez-y. Allez-y.
Et mettre en place une équipe défensivement, c'est la chose la plus facile. Pour moi.
Pour vous, ancien entraîneur, grand entraîneur.
Et grand attaquant, et grand finisseur.
C'est la chose la plus facile. La plus difficile, c'est de trouver des bons attaquants. Ouais. Et tout le monde n'a pas de bons attaquants. Et la France, il a des très bons attaquants, les jeunes.
Ah oui, puis beaucoup en
alors,
plus.
Alors, la question, c'est de, on va se faire fort défensivement. Un milieu de terrain complémentaire, et après les 3 autres devant.
Il règle le problème.
Débrouillez-vous.
C'est ça.
Débrouillez-vous.
Mais
la
c'est
seule
ça,
chose,
c'est ça.
La seule chose qu'il faudrait les demander un petit peu, c'est de faire un petit peu un travail défensif. Et ce travail défensif, ils ont l'habitude de le faire. Dembélé à Barcelone, Griezmann à Atlético Madrid, mais Mbappé à Paris, non, parce que c'est facile, Paris.
Pas beaucoup.
Il travaille pas beaucoup, c'est pas
fait. Mais il a des bons défenseurs. Mais Franck, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est un point négatif.
Non, pas du
quand
tout.
Quand vous dites, ils sont pas deux à travailler pour un seul.
Vous
l'avocat du diable, là.
Vous méprenez pas. Je suis très heureux de, au contraire, qu'on ait autant de, j'ai pas dit que c'était négatif. J'ai dit, pour moi, ce sont des solistes. C'est comme des chefs. Chacun, c'est une nouveauté. Et moi, je vois ça à travers le prisme de 40 ans ou 30 ans, 35 ans à suivre l'équipe de France, même à la télévision, on le voit, c'est tout. C'est une chance d'avoir des joueurs comme ça. On va pas dire le contraire. Voilà. Après,
ça doit être Deschamps qui doit s'adapter à cette situation.
Ah, et il s'est adapté d'ailleurs en les appelant.
Et puis, faut, moi, je voudrais aussi relativiser le résultat parce que en face, il y a une autre dynamique.
On l'a relativisé d'entrée.
Ouais, mais c'est important de le rappeler. Ils auraient pu en marquer le double, des buts, parce que Sirigu, il a fait quelques parades. Mais franchement, faut relativiser parce que la dynamique, l'équipe de France, elle est en pleine préparation, au cœur de la prépa, et ils sont dans un rythme que n'ont pas les Italiens. Les Italiens, ils sont venus pour donner la réplique, et on peut les remercier d'avoir plutôt, d'avoir vraiment embêté les Français, parce que quand il y a ce but à 2-0, bon, il y a un petit flottement. Après, il y a ce talent, effectivement, qui permet de se remettre bien, et puis le flair de Dembélé.
Antoine, et c'est ce trio d'attaquants qui sera titulaire pendant la Coupe du Monde?
Alors, on sait que Didier Deschamps aime beaucoup Olivier Giroud, aime bien le profil.
Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs
d'Olivier Giroud?
Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, ce garçon-là?
Bah, il était en vacances là ces deux derniers jours.
On l'a laissé tranquille. Avant les vacances, qu'est-ce qu'il faisait?
Avant les vacances, il joue son rôle de pivot. Il a marqué contre l'Irlande,
Franck.
Il marque des buts. C'est un match pour lui. C'était un match un peu humide.
Ben, il marque des buts, Olivier Giroud. Et a priori, c'est tout ce qu'on lui demande avec des remises, être un point de fixation pour les gens qui lui tournent autour.
C'est le finisseur.
Sur le match de l'Italie, je suis d'accord avec Franck sur le fait que l'opposition
ne
répond pas.
Donnons rendez-vous à l'Italie dans 6 mois ou dans 10 mois.
Il a dit, il faut se la voir dans un an pour voir.
Mais de toute façon, ils sont pas à la Coupe du Monde, donc en revanche,
là où je suis pas d'accord avec Franck, c'est quand il parle d'une attaque de soliste. La manière dont ils ont joué ensemble, on peut reprocher à Ousmane Dembélé de pas lever la tête suffisamment quand il court. Ça, c'est une certitude. La prise d'information chez Dembélé, ça reste un problème parce qu'il court le nez sur le ballon et il lève la tête au dernier moment pour voir où il peut centrer éventuellement. Ça a été un vrai problème pour lui contre l'Italie. Sa performance, elle est quand même plutôt positive parce qu'il y a ce but absolument magnifique. Il aurait pu inscrire un doublé avec sa frappe sur la barre. Dembélé fait un match très bon et assez mauvais à la fois parce que collectivement, individuellement il y était, mais collectivement il n'y était pas. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est que les performances de Mbappé et Griezmann, les deux ont parfaitement combiné, s'entendent déjà très bien, et ils sont pas aimantés vers le but.
Ils sont pas aimantés par le but. Ils ont eu plus de temps à travailler ensemble. Et puis on va pas jouer sur les mots, mais j'ai pas dit que c'était un reproche. C'est juste un constat. C'est vous qui traduisez ça comme un reproche. Bah, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Voilà. Attention que ce soit
éclairci
avec Giroud. Avec Giroud, on a l'équipe, il a un gros problème, c'est que lui, il est très fort de la tête.
C'est un point positif, alors.
C'est un très bon remisseur. Dans les 18 mètres, il est important. Mais avec lui, tu n'as pas de contre-attaque parce qu'il va pas vite. Et en plus, il faut avoir des mecs qui jouent, que le ballon, il aille à l'extérieur pour centrer pour lui.
Donc la décision, c'est quoi?
Ça dépend des styles qui va les donner.
En fonction des adversaires, j'imagine.
Le profil varie. Je pense que c'est ce que peut-être Antoine peut nous dire, mais ça variera en fonction de l'adversaire. Et c'est bien d'avoir toute cette palette.
Oui, c'est la chance. C'est la chance pour moi. La possibilité de se mettre, à l'aise selon l'adversaire. Ouais. Et surtout d'être imprévisible. Parce que c'est ça qui va faire la différence vraiment sur les terrains.
Le scénario qui se dessine des deux derniers matchs, c'est on pourrait très bien, sans que ce soit choquant, voir un Giroud débuter sur le banc et rentrer à 20 minutes, un quart d'heure de la fin pour faire la différence,
Si tu dois aller chercher le résultat.
Oui, parce évidemment, que si mais il ne va pas rentrer gratuitement.
Si tu mènes, t'as pas besoin de Giroud. Non, parce que si tu mènes, t'as pas besoin de Giroud parce que tu vas jouer un petit peu plus au contre-attaque. Avec Giroud, tu n'as pas de contre-attaque.
En tout cas, c'est difficile d'imaginer une attaque avec Mbappé, Griezmann, Dembélé et Giroud. Une attaque à quatre, elle est écartée parce que ça veut dire qu'on retire un milieu de terrain.
Il y a quand même un Griezmann qui a une palette peut-être plus élargie que les autres. Oui. Peut-être. Il peut être un peu plus en soutien.
Lui, il peut jouer avec Griezmann.
C'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit en zone mixte après le match de Nice. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer en retrait derrière les deux attaquants et leur donner des ballons. Des bons ballons.
Parce que Griezmann, il a dit ça.
Oui.
Parce que Griezmann, c'est pas pour jouer en pointe. C'est une deuxième pointe.
Oui.
C'est pas non plus un fakir, disons, qui organise, il joue pour les autres. Mais Griezmann, c'est un bon joueur qui peut revenir 5-6 mètres derrière et construire un peu plus.
Ceux qui ont, avant qu'on passe au milieu terrain, Antoine, si vous voulez bien, on aurait pu parler, c'est des latéraux. Ils les avaient changés. On savait que le test portait sur Benjamin Mendy et Djibril Sidibé qui revenait à des temps différents, mais de blessures, et qui donc revenait dans l'effectif pour le match contre l'Irlande. Là, il a testé Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Et en tout cas, Lucas Hernandez, on a eu l'impression là qu'on avait sur le terrain un Colchoneros parmi l'équipe de France.
Non. Il y avait deux donc.
C'est cette mentalité de combat, il l'a amené oui, effectivement avec Griezmann, en équipe de France, cette volonté.
On a vu son débordement à un moment, il s'arrêtait plus. On s'est dit ça, c'est un homme de Simeone.
C'est surtout qu'on se dit finalement la chance de Didier Deschamps, c'est qu'en quelques mois, voire en quelques semaines, on est quand même passé sur le côté gauche de l'équipe de France, de Lévin Kurzawa et Lucas Digne, à Benjamin Mendy et Lucas Hernandez. Donc on a totalement changé de dimension. Quant à Benjamin Pavard sur le côté
deux
droit.
Très bonnes équipes, parce que attention,
oui, dans deux très bons championnats.
Attention qu'il a pris le poste à Louis-Philippe.
Louis-Philippe.
Et l'Atlético Madrid.
Oui. C'est ce que dit Simeone d'ailleurs. Franck, ces deux latéraux, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est la chance de Deschamps, il a aussi le choix sur ses postes.
Je croyais que c'était des faire-valoir. Non mais là j'exagère volontairement. Je croyais que c'était des garçons qui étaient qui venaient en complément d'effectifs. Et quand on les voit évoluer comme ça, on se dit que bah il y a rien de choquant s'ils les classent dans le 11 de départ. Ils ont vraiment de très belles qualités défensives, des qualités de contre-attaquant. Pavard, on sait qu'il peut évoluer encore plus, il peut être un soutien même pour l'axe. Moi, j'ai vu de bons footballeurs et des garçons qui ont pas beaucoup d'histoire avec les Bleus, mais tout de suite ils sont là.
Ouais, qui ont
et
pas
ça,
beaucoup
c'est super.
De timidité hein, ils sont lancés complètement.
Vraiment, c'est super
problème,
positif.
Je pense que le seul problème qu'il doit avoir Deschamps, c'est le milieu de terrain.
Eh ben, on va en parler.
C'est le seul problème qu'il doit avoir. Qui est-ce qui se fait jouer?
On va en parler. Carlos, me grillez pas mes transitions.
juste pour préciser, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard font une très bonne partie contre l'Italie avec une défense centrale bleue qui était, en tout cas du côté d'Adil Rami, pas terrible du tout. Samuel Umtiti marque, mais il n'a pas été forcément non plus rassurant. Donc c'est à mettre à leur crédit aussi. Ils savent tenir la baraque, même quand la défense centrale n'est pas forcément
solide. Mais Varane, il va jouer.
Évidemment,
sans doute.
Évidemment, c'est juste que là, pour l'instant, il faut
donner un peu à manger à tout le monde, Carlos Sainz aussi. Hein.
Et là, Umtiti, hein, aujourd'hui à Barcelone, parce qu'il a re-signé son contrat, enfin, il a prolongé son contrat du côté du Barça. Alors, le milieu terrain, parlons-en, parce que s'il y en a qui apparaissent de temps à autre comme ça, alors sur en attaque, sur les côtés, des nouveaux et qui peuvent être aussi dans l'équipe A, eh bien on a vu en milieu de terrain notamment briller Corentin Tolisso, alors que Paul Pogba était aligné au début du match et il est ressorti du terrain en milieu de deuxième mi-temps, sifflé par les supporters ou en tout cas les spectateurs du stade de Nice, de quoi rendre en tout cas solidaire autour de Paul Pogba ses copains comme justement Corentin Tolisso.
Personnellement, on voit ce genre de sifflet, même quand Flo est rentré, on n'a plus entendu des sifflets et ça m'exaspère, ça m'agace parce que vraiment on est tous des joueurs de l'équipe de France, on se bat pour notre pays, on se bat pour les supporters qui étaient présents. Et voilà, Paul a fait un très bon match, a été extrêmement présent, s'est dépensé et entendre ses sifflets, ça fait mal parce que j'aimerais pas personnellement qu'on me siffle, même si je vais à Saint-Etienne, parce que je suis un ancien Lyonnais. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir parce qu'on est l'équipe de France, on est tous dans le même bateau et si on veut aller loin à la Coupe du Monde, il faudra être tous ensemble.
Tous sur le même bateau et le capitaine Lloris a lui aussi défendu Pogba contre ses sifflets.
Mbappé aussi.
Ils ont été plusieurs, je ne les ai peut-être pas tous entendus.
Ils ne se forcent pas, je pense.
Oui.
Je pense qu'ils sont sincères dans le.
Quand il dit on est tous dans le même bateau, effectivement, de toute façon, à un moment, il faut qu'il soit solidaire. Alors défendu par ses copains, mais vous allez l'entendre, Didier Deschamps, lui, il ne le siffle pas, bien sûr, mais par contre, quand même, il le rappelle à l'ordre et il lui demande un peu plus à son milieu de terrain.
Il n'a pas tout réussi. On l'attend beaucoup à la finition. Il a contribué à ce que l'équipe de France soit bien organisée. Ben, je ne remets pas en cause le potentiel de Paul. Si je l'ai pris, c'est que pour moi, il est indispensable. Après, je sais ce qu'il est capable de faire. Il faut qu'il hausse son niveau de jeu, bien évidemment. À lui d'être le plus performant possible. Mais j'ai confiance en lui. Comme j'ai confiance en tous les autres joueurs aussi, je choisirai.
Antoine, il choisira. Est-ce qu'il a des doutes tout d'un coup, Didier Deschamps ?
Eh ben, il aurait des raisons d'en avoir, parce que la prestation de Paul Pogba sur 86 minutes contre l'Italie, au final, on n'a quasiment rien vu de lui, si ce n'est deux excellentes transversales, une à droite, une à gauche, pour faire plaisir à tout le monde. Mais on voit surtout cette frappe à la 75e minute. Il est face au but italien, il est à 25 ou 30 mètres. Il déclenche une frappe, on se demande bien pourquoi à ce moment-là, et il la met sur le poteau de corner. C'est ça que laisse
comme
la, l'impression
non mieux que
et d'ailleurs il sort
il a touché le poteau de corner.
Hein, ouais. Il sort
c'est
d'ailleurs
devenu viral.
Il sort d'ailleurs à la 86e minute sous les sifflets. Paul Pogba.
Paul Pogba, éternel débat dans cette équipe de France. Valentina, vous comprenez ce débat ?
Oui, je les comprends dans le sens que ça fait depuis un moment qu'il n'attend pas les niveaux que tout le monde attend de lui. Donc depuis qu'il allait à
comme
Manchester,
comme dit Deschamps, il a le potentiel et
oui,
on attend.
Depuis qu'il allait à Manchester, il n'a jamais son vrai niveau. Je veux dire, quand il était à la Juve, c'était quelque chose de beaucoup plus équilibré.
Et régulier.
Et là, il comme s'il est perdu, comme si tous les problèmes qu'il avait avec Mourinho et dans l'équipe en général, voilà, ça reflète aussi dans son quotidien avec l'équipe de France. Donc c'est vraiment ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui a regardé vraiment de près, parce que aussi en Italie, parce qu'il y a toujours, on ne sait pas, d'un retour à la Juve et tout ça, qui ont dit il faut être les suivre de près, et peut-être qu'ils sentent aussi toute cette tension autour de lui.
Carlos, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du problème Paul Pogba? D'ailleurs, est-ce que c'est un problème Paul Pogba, selon vous?
Je crois que c'est le problème, le système de jeu qu'il va mettre en place Deschamps. Parce que si vous jouez en 4-4-2, Pogba il peut jouer. Mais si vous jouez en 4-3-3, je ne sais pas si vous élevez Matuidi, parce que Kanté, il faut qu'il joue.
Oui.
Tolisso, avec les prestations qu'il a fait.
Et, il faut
et
qu'il
si
joue.
Vous faites en 4-4-2 et vous mettez Tolisso sur la droite, il perd de la valeur. Parce que ce n'est pas un mec pour aller vers l'extérieur. C'est un 8 pour arriver, comme les anciens, comme Henri Michel, disons, pauvre, et qui arrive devant le but. Alors, c'est pour ça. Tout dépendra du système qui fera jouer l'équipe Deschamps.
Mais vous,
c'est un très bon joueur, mais s'il joue pas bien,
mais vous trouvez qu'il joue bien, vous trouvez qu'on exige
non,
trop, vous trouvez
non,
qu'on critique trop.
L'autre jour, il n'a pas bien joué. C'est pour ça qu'à Manchester, quand il jouait pas bien, il jouait pas dans l'équipe.
Mais vous pensez qu'il pourrait vraiment jouer mieux? Ou que son dilettantisme un peu.
On l'a vu jouer des matchs. Il a une façon de jouer un petit peu nonchalant.
Voilà.
Oui, pour moi, c'est tout facile. Je fais ça, je fais autre chose. Et à la fin des concrets, il fait pas grand chose. Mais c'est un mec qui a fait des matchs très, très, très bons. Et surtout à la Juventus, malheureusement.
Ouais. Tactiquement, c'était extraordinaire à la Juventus,
oui,
en plus.
Mais il y avait un système de jeu qui, lui, il s'adaptait très bien. Et là, c'est pour ça que tout dépendra du système de jeu.
C'est aussi la rigueur.
Qui jouera la France.
C'est relativement Antoine. Habituel d'avoir un joueur qui est moins performant en sélection qu'en équipe de club. Kanté, il est phénoménal à Chelsea. En équipe de France, il est très bon, mais il n'est pas aussi phénoménal. Le problème de Paul Pogba, c'est qu'on a l'impression, je ne sais pas si elle est partagée ici, mais en tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donnée à moi, c'est de ne pas comprendre ce que Didier Deschamps attend de lui, tout simplement. C'est que Didier Deschamps l'aime beaucoup, la ligne, connaît ses qualités, mais Pogba n'a pas l'air de savoir s'intégrer, d'apporter simplement une forme de volonté, d'envie. Je ne sais pas si c'est vraiment le registre de Paul Pogba au milieu de terrain, justement à cause de son jeu nonchalant.
Franck, qu'est-ce que vous en pensez?
Il ne devrait même pas lui demander. Ça devrait être naturel quand tu es aligné sur le terrain. Après, c'est sur les considérations tactiques. Et là, je rejoins Carlos. C'est plus là-dessus, mais sur la volonté quand tu mets le maillot pour représenter la France dans l'Euro ou dans la Coupe du Monde, il n'y a même pas à se poser la question. Et du coup, il y a des garçons qui, comme Quentin Tolisso, qui sont là depuis peu de temps. Et je me souviens pas d'un mauvais match de Tolisso en équipe de France. Je sais pas combien il a de sélection.
Parce qu'en plus,
mais
c'est
il est tout le temps bon. Il est tout le temps bon.
Tolisso, même quand il joue pas très bien, il a une certaine élégance qu'on croit qu'il joue bien. Non, mais je te dis la vérité.
C'est une qualité, ça, quand
mais
même.
Je te dis la vérité, je l'ai vu jouer dans des matchs à Bayern de Munich. Que je dis, bon, il a fait un bon match, mais comme il est élégant, c'était un petit peu comme Zidane. Zidane, il y avait des fois qu'il faisait de mauvais matchs, mais oui. L'élégance qu'il avait, lui, avec ça.
Il y a les gestes, hein, chers auditeurs, dans le studio.
Le problème, c'est, selon moi, aussi dans lui-même, dans le sens Pogba, il s'est mis en difficulté aussi tout seul, avec toutes les déclarations qu'il a fait, les faits qu'il ne faut pas.
Et dans, dans France Football qui paraît demain, vous verrez, il y a un entretien de.
Il veut être le leader, il rêve du ballon d'or.
Voilà, je suis le taulier, quoi. Qui va me dire comment jouer? Je vous invite à lire le France Football. Je l'ai pas malheureusement ici. Ouais, c'est lui veut être le parce que il a cette conviction, je pense en lui d'avoir ce pote qu'on appelle le potentiel.
Il y a un décalage énorme entre la réalité et ce qu'il représente.
Ben, et depuis 2014, on dit il peut plus.
C'est pour ça que le sélectionneur des Bleus, il a raison de le piquer. Ouais. Que ce soit lui, que ce soit son entraîneur en club, ils ont raison de le piquer, puisqu'il ne donne pas ce qu'on leur demande de lui.
D'ailleurs, sa sortie à la 86e minute, alors qu'il reste 4 minutes à jouer, elle n'est absolument pas nécessaire. Simplement, Didier Deschamps, en le sortant, sait qu'il va se faire siffler Paul Pogba sur la prestation
c'est
qu'il a faite. Il le sait.
Je pense que c'est ça. Je ne peux pas penser qu'un entraîneur, il le ferait exprès.
Un sélectionneur.
C'est comme une leçon, Carlos.
Moi, je dois le garder à mon joueur. Je dois le couvrir. Je dois
protéger.
Pas lui faire du mal. Mais après, excusez-moi, après je le mets plein la gueule.
Ah voilà.
Dans le vestiaire.
Face-face quand même.
On y reviendra sur cette équipe de France. Merci beaucoup Antoine. Remarquez Antoine, ça vous intéresse. Les futurs adversaires de l'équipe de France. L'Australie, elle a joué durant le week-end parce que tout le monde évidemment joue ses matchs préparatoires. Facilement battu la République tchèque 4-0. Alors les kangourous, hein, va falloir être prudent.
Il va falloir se méfier, d'autant que Bert van Marwijk, leur sélectionneur, est là juste pour la Coupe du Monde, donc il faut qu'il la réussisse.
Ouais, oui, il a été un peu, lui aussi, il a piqué un peu hein, l'équipe de France.
4-0, c'est.
C'est beaucoup.
C'est normal, c'est pas normal du tout.
Ils ont joué aussi assez peut-être tranquillement les Tchèques. Leur gardien de but était celui de Rennes et il a pas eu beaucoup de chance. Le Pérou, lui, eh bien, il a disputé son match à Lima, alors dans une ambiance de feu parce que cette équipe qui jouait contre l'Arabie Saoudite, une Arabie Saoudite qui avait perdu contre l'Italie quelques jours avant, là elle a encore perdu sur le score de 3-0 et elle a perdu avec un doublé du capitaine, surtout le revenant dans ce groupe, Paolo Guerrero.
Attention à l'attaque, Tapia qui levante sa pelota, se vide le cuadro national, Flores, le quema las manos al portero. Del capitán Paolo Guerrero. Está Carrillo para el centro, a ver si en Cari pasa, va Carrillo, en Cari pasó y está centro y canto el tercero al arco. Pérou 3, Arabie 0.
Incroyable, important.
C'est incroyable et si important de recevoir tous ces soutiens, tous ces encouragements. Je remercie vraiment tout le monde. Je n'ai que ça à leur dire. Merci, merci. Parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à autant de messages. Maintenant, en retour, il ne me reste qu'à leur offrir effort et sacrifice. Et avec cette équipe, on y arrivera. Ils m'ont reçu si bien depuis que j'ai été autorisé à jouer. Je suis heureux car le groupe est resté concentré, uni vers un même objectif, cette Coupe du Monde. Et rien ni personne ne me détournera de notre but.
Alors Paolo Guerrero, on vous rappelle, hein, il avait été suspendu pour un suspicion de dopage, puis autorisé à jouer finalement juste avant la Coupe du Monde. La suspension s'arrêtait. Puis le TAS, le tribunal arbitral du sport, l'avait suspendu pour un an. Bon, finalement, il bénéficie de plein de circonstances atténuantes. Il pourra jouer la Coupe du Monde. Peut-être qu'après, il sera puni, le joueur de Flamengo. Cette équipe du Pérou, parlez-nous de cette équipe du Pérou, Carlos, parce que selon votre ami argentin Alejandro Valente, c'est une équipe qui va poser des problèmes à l'équipe de France durant la Coupe du Monde.
C'est tout à fait normal. C'est une bonne équipe qui va essayer de jouer bien au football, d'abord.
Et elle est entraînée par un Argentin.
Gareca, je l'ai eu sous mes ordres.
Exactement, parce qu'il vient de Vélez.
Il est comment, Carlos, il est comment cet entraîneur?
Lui? Ouais. Non, lui, en principe, c'est quelqu'un offensif. Ah. Mais je crois pas qu'il
c'est
va jouer.
C'est pas bon pour la France, alors.
Non, mais je crois pas qu'il va jouer très offensif contre. Je crois pas. Parce qu'il est au courant que la France, il a des bons attaquants qui vont très vite. Alors, lui, bête, il n'est pas. Mais c'est une équipe qui sait de jouer au football. Il n'a pas de grand potentiel offensif. Parce que Fanfan, ce n'est plus le même.
Bah oui, il a 34 ans, hein, c'est
et
ça.
Et oui, l'autre aussi, Paolo Guerrero, il a 34. Mais il est plus en forme, plus pour jouer en pointe. Et ils sont pas des grands attaquants, mais ils sont des bons joueurs de ballon au milieu de terrain. Défensivement, ils sont une assise, très intelligente. mais je ne crois pas qu'ils vont jouer très, très, très offensif.
Franck?
Moi, ils me font peur. Ils me font peur. Non, parce que je respecte, j'aime bien les équipes comme ça.
Et bah, les équipes sud-américaines,
c'est... J'ai le souvenir, quand j'étais minot, oui. Le Cameroun, 82, contre le Pérou, tout ça. Bah bon, on va pas remettre les souvenirs. Et puis, j'ai beaucoup aimé, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, il y a eu un petit film, là, du Pérou, qui se présentait à la France et tout, et je trouvais ça merveilleux, formidable, quoi. Le peuple péruvien et les footballeurs qui s'adressent au pays, à la France et aux footballeurs français. Et du coup, tout ça, ça me plaît bien et j'attends ce match avec impatience.
Valentina?
Oui, moi, il faut toujours se méfier des équipes du Sud-Amérique.
Ah, ça.
C'est sûr, certain. C'est aussi une
quoi,
question d'habitude.
Ça te plaît?
Non, il faut se méfier.
Ah, il faut se méfier.
Tu
aurais vu les éliminatoires.
C'était pas ça.
Ah oui, non, c'était pas les rêves.
Ils sont passés par le barrage, ouais. Rappelons-le.
Eux aussi?
Ouais. Oui, oui.
Mais quand c'est l'Europe qui s'est mélange avec les Sud-Amériques, voilà. Et il y a toujours des grands points d'interrogation, donc je suis curieuse de voir la suite. Moi, cette année, je regarde comme spectatrice.
Oui, oui, observatrice.
Je vous dis quelque chose, ça dépend les... Il faut tenir compte d'une chose. Les Européens ont l'habitude de jouer plus sur le terrain rapide. Et les Sud-Américains sur le terrain lent. Surtout parce que se joue presque la plupart des matchs de championnat l'après-midi. Si vous voyez le match de Brésil contre la Croatie, ça jouait à 2 à l'heure, si vous l'avez vu. C'est joué l'après-midi. Mais si vous voyez un match le soir, la France, il allait à 2000 à l'heure. Attention, ça dépendra le jour qui joue la France contre le Pérou, à quelle heure il joue.
À quelle heure il joue, Antoine, vous le savez?
Non, là, j'ai...
Moi aussi,
c'est intéressant. C'est
intéressant. C'est l'après-midi. Peut-être c'est 16h ou 18h de l'après-midi.
Ouais. Regardez-vous que contre tous les Européens, ils arrosent le terrain parce qu'ils veulent que le ballon, il aille vite. Là-bas, en Sud-Amérique, en Amérique du Sud, ça ne s'intéresse pas vraiment. Et qu'il s'aille trop vite.
Un élément intéressant, je trouve.
Exactement. Ouais. Exactement.
Comme souvent avec Carlos Bianchi.
Ouais. Et il se trompe rarement, en plus.
Carlos, justement, eh ben, vous avez eu envie de parler de Neymar et de la Croatie. Parlons de ce match, parce que c'était
17h.
Le match de préparation.
Ça va être
pour la
17h,
France.
17h, ouais.
17h contre le Pérou.
C'est bon, c'est pas bon,
les
Carlos?
21.
Le terrain, il va être sec. Ça dépendra si demande de l'arroser.
Qui décide dans ce cas-là?
Et dans un match des championnats, c'est toi. C'est lui qui joue,
oui,
c'est lui.
Oui, bien sûr. Je
mais
sais.
Et là, la sélection qui va, ouais, ça, c'est une
celle qui reçoit,
bonne,
peut-être.
Ça, je sais pas. Certainement la sélection qui reçoit.
Ouais.
Ça, je sais pas.
On essaiera d'en savoir.
Parce que
plus.
Peut-être que les terrains, ça l'intéresse pas qu'il aille trop vite aux Péruviens.
Pour favoriser leur système.
Péruviens, mais le français, il préfère qu'il aille vite.
Alors, les matchs de préparation, on vous le dit, on en a choisi quelques-uns parce que il y en a trop, mais il y avait ce Brésil. Le Brésil qui a joué chez lui et il a joué avec le retour du prodige, hein, qui, ça y est, le pied est réparé, la vis est dans le pied, ça tient, c'est Neymar. Neymar qui, en plus, marque un superbe but.
Dai pro Neymar, na grande área, mano a mano, perna esquerda, fez o corte, invadiu a batida! Gol!
Comme c'est pas trop sérieux en ce moment, chaque but des matchs préparatoires a son rythme, a sa musique, bien. Vous avez remarqué. Carlos, parlez-nous de ce Brésil. Parce qu'en plus, en sortant, Neymar a dit « Je ne suis qu'à 80%.
Oh, » C'est tout.
Il n'a pas besoin de plus. Non, mais le Brésil, il a deux équipes presque. Et j'ai vu le match... Contre la Croatie, ce sont des équipes difficiles à manœuvrer.
On se souvient pendant l'Euro, hein, ça avait été une des équipes favorites, enfin préférées en tout cas d'Abid Bey.
C'est des équipes difficiles. Mais le Brésil, il joue tranquille, il joue à son rythme, il accélère quand il faut accélérer. Et il a des joueurs déséquilibrants devant. Il y a un Coutinho,
Vous trouvez que c'est un bon Brésil?
C'est un bon Brésil. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur.
Tite.
J'ai beaucoup de respect pour Tite. Je le connais, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. Il ne va pas faire cadeau. Défensivement, ils ne vont pas se régaler, jamais. Tenir la pleine sécurité. Et en plus, ils sont des mecs devant. Williams, Neymar, Firmino,
Gabriel Jesus,
Coutinho. Ce sont 5 mecs qui, chacun à son tour, il peut faire la différence.
Ah, ils en ont plus que l'équipe de France, alors.
Et la France, elle a...
Non, mais je plaisantais.
C'est ça.
Franck, vous avez jeté un œil sur cette équipe du Brésil?
Et j'en tremble d'avance. J'en tremble d'avance parce qu'effectivement, il y a ce potentiel.
Ils arrivent un peu le couteau entre les dents, c'est ça. C'est-à-dire un désir quand même de laver l'honneur des fautes de vengeance.
On va pas rappeler ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'était quand même assez triste pour un pays organisateur de se faire
étrier
comme ça, étrier. Et les quelques images, j'ai pas vu le match dans son entier, dans son ensemble, mais j'ai vu les, comme on dit en anglais, les highlights, les extraits. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'effectivement, à tout moment, vous avez un joueur ou deux joueurs, ils vont combiner justement eux, et puis ils vont trouver des passes incroyables.
La première mi-temps, c'était tout ennuyé, parce qu'il allait à deux à l'heure.
Mais ça, ils ont contrôlé.
Ils ont contrôlé le match, mais ils sont pas arrivés une seule fois au but, pas occasion de but, rien. Et ça a commencé à bouger quand Neymar il a rentré.
Comme par hasard. Et puis là, il s'est amusé. On a l'impression les Croates, c'est des plots, quoi, des trucs qu'on a posés par terre et ils peuvent rien faire. Ils passent entre les plots et ils mettent une frappe.
Pourtant, on aimait bien cette équipe de Croatie il y a 2 ans à l'Euro.
Oui, mais là contre Neymar, c'est très compliqué.
C'est rien.
Et le deuxième but dans le temps additionnel, pareil. C'est magnifique. Le centre, le
Firmino.
Ouais, Firmino. C'est ce qu'il fait sur cette
il
action.
Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand il contrôle, il vient le défenseur, il le fait comme ça. Il a arrêté, simplement comme ça.
Un gamin comme ça.
Avec la main droite, il l'arrête.
Il s'est arrêté, tant qu'il arrivait devant le gardien.
Par-dessus.
Ils seront peut-être sur la route de la France, n'est-ce pas?
Ils seront peut-être sur la route de la France en demi-finale. La Croatie peut-être en 8e et le Brésil.
La question, c'est qu'il ne faut pas qu'ils finissent la France ou l'Argentine en premier et l'autre deuxième parce qu'on se trouve.
Ça, c'est un autre scénario.
C'est pour ça que je dis.
Serait pas bien,
mais l'Argentine, il est dans le groupe et la Croatie.
Eh oui.
Du côté du Brésil, on a l'impression qu'ils avaient dominé les éliminatoires sud-américains et on n'a pas l'impression qu'ils ont baissé le pied depuis. C'est impressionnant. Très impressionnant.
Et évidemment, on vous reparlera de toutes ces équipes puisqu'elles se préparent toutes dans le même but, qui est de gagner la Coupe du Monde.
Beaucoup
une très belle photo sur notre page Facebook, David Finzel a trouvé, vous irez voir, et c'est très intéressant. Pour l'instant, on part vers l'Est. Notre rendez-vous avec Régis Janté, l'histoire du football russe, objet d'un livre du correspondant de RFI dans le Caucase, Football, le ballon rond de Staline à Poutine, livre qu'il viendra nous présenter à la veille du coup d'envoi. Mais reprenons le fil de l'histoire laissée vendredi. Aujourd'hui, Régis Janté, vous nous racontez une saga familiale qui se finira mal, puisqu'elle se finira en Sibérie. C'est celle des 4 frères Starostine qui ont contribué au développement du football à Moscou pour finir un jour au goulag. Pourtant, ils sont les pères, en quelque sorte, du football russe.
Je dirais plutôt du football soviétique, pour être précis, mais au sens où ils ont fait prospérer ce football contre la volonté d'une partie du pouvoir bolchevique, sans pour autant avoir été des opposants. Disons que Nikolai, Alexandre, Andrei et Piotr Starostine sont d'abord des fous de ce sport qu'ils ont découvert dans les années 1910. Ils se prennent tout de suite de passion, traversent Moscou les dimanches pour aller voir les matchs des équipes de l'époque. Et avant la Révolution, Nikolai Starostine, l'aîné, et qui est aujourd'hui connu comme une vraie légende, monte des clubs, passe des accords avec la pègre, les criminels, pour avoir un terrain, par exemple. Bref, il se débrouille pour jouer au football, il ne pense qu'à ça. Et si Nikolai et ses frères sont un peu les pères du football soviétique, c'est parce qu'ils ont créé notamment le Spartak de Moscou en 1935, le grand club du football de l'URSS.
Le Spartak de Moscou, un grand club grâce à ses résultats sur le terrain?
En fait, si le Spartak est entré dans la légende, c'est aussi parce que l'identité de ce club va comme symboliser une certaine vision du projet politique soviétique. Le génie des frères Starostine va faire que le Spartak est appelé l'équipe du peuple, ce qui ne plaît pas à certains au NKVD, par exemple, la police politique, qui est le sponsor du Dynamo de Moscou. Parce qu'il faut savoir que les années 30-40 sont marquées par la rivalité Spartak-Dynamo. Les styles de jeu sont différents, plus spontané au Spartak, plus mécanique, plus discipliné au Dynamo. Et c'est très fort, notamment dans le contexte des purges politiques staliniennes, nombre de supporters qui choisissaient de soutenir le Spartak le faisaient pour dire non au régime policier du NKVD incarné par le Dynamo de Moscou. Soutenir le Spartak, c'était une forme de résistance politique chez beaucoup.
Une résistance qui finalement les a conduits directement vers le goulag.
Et oui, en 1942, à l'époque, ils sont en passe de devenir plutôt des dirigeants du Spartak, ils se font vieux, et ils en sont l'âme de ce club. Lavren Tiberia, lui, le brutal bras droit de Staline, patron du NKVD, sent que le Spartak est populaire, trop à son goût, et il fait donc arrêter et expédier au goulag les quatre frères. Et là, ce qui va les sauver, c'est le football, encore une fois. Leur célébrité fait qu'ils sont nommés entraîneurs des équipes de leur goulag, d'où des conditions de vie privilégiées, relativement, dont ils jouiront pendant leurs 10 ans de camp.
Merci beaucoup, Régis. À demain pour la suite de cette histoire du football russe. Franck.
Bah oui, on espère que les Gaindé ils vont faire quelque chose. Hein.
Et voilà, parce que vous n'êtes pas dans Couleur Tropicale, vous êtes bien dans Radio Foot International. Mais cette chanson est l'hymne officiel du Sénégal. En tout cas, c'est la chanson qui va accompagner Gaindé, donc les lions de la Teranga. C'est une chanson signée du rappeur Black M et de Youssou N'Dour. Black M qui veut fédérer, en fait, hein, on l'entend dans les paroles, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone autour des lions de la Teranga. Espérons.
Oh, ils sont bien suivis par tout le monde de toute façon.
Ah oui,
ils sont tellement aimés qu'il n'y a aucun souci, toute l'Afrique va être avec eux.
Et oui, donc quelques années après l'épopée 2002, eh bien, ce sera celle des lions autour d'Aliou Cissé. Voilà pour ce qui est du Sénégal. Parlons de l'Égypte maintenant. L'Égypte, elle, a attendu 28 ans pour retrouver la compétition internationale et elle croyait en sa chance grâce à la présence d'un des meilleurs joueurs d'Europe du moment, Mohamed Salah, si fort cette saison sous le maillot de Liverpool. Mais voilà, le 26 mai dernier sur la pelouse de Kiev face au Real Madrid, Mohamed Salah est sorti blessé à la 31e minute de la finale et depuis, il soigne son épaule gauche. Il est évidemment sur la liste définitive qui est sortie aujourd'hui qu'Hector Cooper, l'entraîneur, le sélectionneur argentin, a publié, mais toute l'Égypte retient son souffle. Vous voulez les rassurer, Franck, est-ce qu'il sera là, Mohamed Salah, selon vous, selon vos informations, pour ce premier match?
Ce que je peux vous dire, ma lecture en fait des événements.
Bien sûr.
Il est dans la liste qui a été officialisée par la FIFA il y a pas très longtemps, il y a une heure ou deux, toutes les listes qui ont été envoyées, notamment aux médias et puis consultables par tout le public. Bon, ce qu'on ressent, ce qu'on pressent, c'est qu'il sera présent plutôt pour le deuxième match. Donc ça veut dire que l'Uruguay, a priori, est tranquille. Quoique, parce qu'il y a des photos, il est malin aussi, Mohamed Salah. Il sait communiquer avec les réseaux sociaux. On a vu les photos, moi ce matin en me levant, la même chose que j'ai vue, c'était justement Salah en train de faire des exercices. Et il disait « good feelings », donc ça veut dire qu'il a des bonnes sensations. Et voilà, c'est une façon aussi de dire « attention, n'oubliez pas ». Je suis là et c'est aussi pour faire peur. C'est un jeu de dupes, mais il faut pas qu'il revienne trop tôt pour se faire blesser par les Uruguayens non plus. Hein.
S'il ne joue pas pour les Uruguayens, c'est le préserver d'une certaine manière aussi, Carlos Bianchi.
Je sais pas dans quelle situation il se trouve, parce que ça là, je dis la vérité, je sais pas dans quelle si la blessure elle était si grave, je sais pas.
Ah bon?
Dans le sens que. Tu te rappelles que contre Manchester City, il est sorti, qu'il était claqué, une semaine plus tard, il jouait.
Il joue quelques jours après. Voilà.
Alors, un jour, tu dis il est claqué.
Non,
pas sorti de la finale par plaisir.
Ouais, 20 minutes, non, il est blessé, il sort.
Il n'est pas sorti, sûrement qu'il avait quelque chose, mais il n'était pas si grave la blessure, je pense.
Sur l'instant, oui.
Alors, il faut voir après, jusqu'au seul des douleurs qu'on a chacun de nous. Parce que nous, la douleur, on la sent pas tous de la même façon.
C'est vrai.
Et les joueurs jouent beaucoup avec des douleurs.
J'ai vu des joueurs de football qui s'est donné à la cheville 3 piqûres pour jouer le match et jouer les 90 minutes. Il y a des autres qui ils sont une petite chose et ils jouent pas. Mais c'est vrai.
Mais le problème, ça serait de se reblesser, en fait. Ça serait le plus grave. Donc, peut-être vaut-il mieux...
Mais ça veut rien dire que tu vas jouer la deuxième journée.
Oui.
Et si tu tombes, tu vas pas te blesser.
Bien sûr. Franck?
Le problème, eux, ils ont pas un problème, entre guillemets, défensif, les pharaons d'Égypte. C'est une équipe qui sait bien défendre et défendre ensemble. Le problème, c'est un problème d'animation offensive. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a vu contre la Colombie où il y a eu match nul.
Match nul 0-0.
C'était, je crois, en Italie, à Bergame, d'ailleurs. Sur un très bon terrain. Un terrain comme ça, vraiment, pour faire le football. Et voilà, le Hector Cooper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas trop le choix, donc il te met Ramadan Sabri, il te le met à gauche. Trezeguet, qui joue en Turquie, qui peut jouer un peu en pointe, il le met de l'autre côté, parce qu'il a pas Mohamed Salah, il le met à droite. Et puis il met un attaquant devant qui marque pas beaucoup de buts, qui s'appelle Morsen. Et du coup, ça ne ressemble plus à rien. Si vous avez Mohamed Salah titulaire, ça veut dire que l'autre, Trezeguet, il va passer à gauche. Sambi, il va pas venir. Et puis, un attaquant, peut-être qu'on va mettre quelqu'un d'autre. Et on a senti cette incapacité des pharaons contre la Colombie, parce que le potentiel technique de la Colombie, c'est sans commune mesure avec l'Égypte. C'est pas faire une insulte aux pharaons.
Ils auraient dû les battre, même, alors, peut-être, si on écoute.
C'est-à-dire, il a fallu quand même, effectivement, bien défendre. Et puis, on a eu Adri qui est rentré, le gardien vétéran, qui a 45 ans, qui est venu, qui a fait une ou deux parades. Mais ils s'en sortent bien. Maintenant, vous savez, ils ont le match mercredi à Bruxelles, les Égyptiens. Là, on va voir un peu comment ça va être contre une équipe aussi qui a des bons joueurs, des bons manieurs de ballon.
Contre la Belgique?
Ouais.
Contre la Belgique, ils jouent?
Oui, mercredi.
Mohamed Salah a, sur l'équipe d'Égypte, l'influence que Neymar peut avoir sur celle du Brésil. On l'avait vu notamment lors de la CAN 2017. L'Égypte a eu du mal contre en phase de groupe contre le Ghana, l'Ouganda et c'est Mohamed Salah qui à chaque
temps,
fois
Antoine.
Ils ont eu du mal tout le temps mais je les ai surtout vus en phase de groupe et c'était là à ce moment-là
c'était
criant.
Vraiment,
c'était encore plus impressionnant à ce moment-là,
il y avait que
Mohamed Salah
et Nenny un peu mais qui était pas bon au premier tour.
Il est au milieu de terrain Nenny donc son influence est pas la même et il marque pas de but
sauf en finale
et ça ne suffit pas.
Ah oui, bah il y avait Aboubakar.
Mohamed Salah, c'est l'homme qui a qualifié l'Égypte pour la Coupe du Monde, quasiment à lui tout seul. Donc son absence,
70% des buts marqués par les Égyptiens durant les éliminatoires viennent des pieds de Mohamed Salah.
Ça sera compliqué sans lui.
C'est une stat incroyable.
C'est impossible.
Sans lui, on peine.
L'Argentine, c'est Messi.
Avec tous les points d'interrogation qui porte.
Et là, pour le coup, la solidité défensive éventuelle de l'Égypte ne suffira pas parce que quand on marque pas de but, on gagne pas de match. Donc
tu subis.
Oui, mais
tu
peux te qualifier avec 3 matchs nuls. Hein. Ouais. C'est arrivé déjà en 82. L'Italie champion du monde.
C'est vrai. Le Cameroun en avait fait les frais.
3 matchs nuls.
Si.
Bon, souhaitons quand même que l'Égypte de Mohamed Salah.
C'est pas terminé. Voilà.
Bombe le torse, n'est-ce pas?
On y croit.
Hein alternative à chercher donc pour cette équipe de l'Égypte. Et puis on y reviendra demain sur la prestation du Nigeria. Le Nigérien qui jouait contre l'Angleterre.
Décevant.
Oui, décevant, même si la deuxième mi-temps a été meilleure.
Il partait de loin, parce que la première mi-temps, c'était pas bon du tout. Et
battu par l'Angleterre.
Maintenant, tout le monde sait, parce que les listes sont tombées. Les joueurs concernés savent, pour l'Égypte, pour le Nigeria, pour la Tunisie, etc. Donc maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le Nigeria joue, mercredi, eux aussi, contre la fameuse République tchèque.
Mmh. Avec un très joli maillot.
Ouais.
Et ça sera en Autriche, à Saint-Polten. Oh bella ciao, bella
ciao, bella ciao, 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 stamattina. Tout le monde chante pour dire ciao, ciao.
Mes larmes.
À Valentina. Valentina, vous reviendrez nous voir, vous n'allez pas nous oublier du côté de l'Italie.
Non, pas du tout. Je viendrai de temps en temps ici à Paris, c'est un plaisir et je vous emmènerai avec moi. Et en plus, si vous voulez venir en Italie, vous me tenez au courant. Et on va parler du calcio toujours.
On vous préviendra. En tout cas, c'est l'armée russe qui vous chante ça.
Merci.
Le cœur de l'armée rouge et qui vous dit au revoir aussi. Merci beaucoup, Valentina. Merci
messieurs, à vous tous
d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Guillaume Ploquin qui était donc à la réalisation. À demain.
À demain. Grâce à